Bienvenue dans le Paris Central Show. Ce soir, on va parler de Renato Sanchez. Ça y est, c'est officiel, entre guillemets. Il va pas tarder à arriver. Donc, on va essayer de parler de son cas et de voir comment on peut l'intégrer dans l'équipe en fonction des arrivées qu'il y a déjà eu. Ça commence à faire un petit peu embouteillage. Donc, on va essayer de voir comment Galtier va pouvoir l'utiliser. Et on va commencer avec Alex, spécialiste du foot portugais avec sa chaîne Golasso TV. N'hésitez pas à vous abonner. Alors Alex, qu'est-ce que tu penses qu'on va pouvoir faire avec Vitinha, avec Renato Sanchez, vu qu'il y a déjà Verratti et Vitinha?
Je pense que Renato, bah, déjà tu peux l'utiliser de plusieurs façons. Tu peux l'utiliser comme en tant que son vrai profil, son vrai poste en tant que numéro 8. C'est un profil qu'on ne possède pas au PSG. C'est vraiment le vrai box-to-box qui est capable de perforer des lignes balle au pied et de vraiment d'amener un peu cette puissance et cette verticalité. C'est vraiment un joueur très vertical et c'est un profil qu'on n'a pas au PSG. Donc en fait, ça dépendra des rencontres, les rencontres où il y aura de l'espace, où ça risque d'être un peu un match ping-pong. Je pense que Renato pourra apporter toute cette verticalité, toute sa puissance. Et c'est aussi un joueur qui depuis quelques années, surtout avec Galtier justement, il a un peu ce profil aussi de numéro 6, capable de venir un peu plus bas et d'organiser lui-même les attaques. C'est vrai que c'était pas vraiment là où on l'attendait. C'est vrai que on n'attendait pas Renato dans ce profil-là, mais avec Galtier, il a vraiment progressé dans ce domaine. Il a progressé techniquement, il a progressé dans son jeu de passe, il a progressé tactiquement. C'est pour ça que je pense qu'on pourra l'utiliser de plusieurs façons. Mais vraiment, pour moi, lors des matchs où il y aura un peu plus d'espace, où il y aura un peu plus de contre-attaque et vraiment un match ping-pong, comme j'ai dit précédemment, je pense que c'est là où Renato pourrait être performant. Et voilà, comme on l'avait déjà dit aussi lors d'un podcast, à 15 millions d'euros, prendre Renato, même si c'est vrai qu'il n'est pas vraiment fiable, surtout au niveau des blessures, je pense que quand même, ça reste quand même une très belle affaire pour le PSG.
Alors, je vais enchaîner sur Barry. Je vais revenir avec une nouvelle question tout à l'heure. Je vous laisse faire le tour des caméras pour suivre l'ordre. Vas-y, Barry, et retire ton micro. Enfin, remets ton micro plutôt. Ton micro, il est coupé.
Déjà, bonjour. C'est bon. Bonjour à tous. Vous m'entendez là?
Ouais.
Ouais, c'est bon. Alors, vous m'entendez. Du coup, bonjour à tous. Sur le cas Renato, moi, je suis à peu près du même avis qu'Alexandre. Il va apporter un profil qu'on n'a pas, c'est-à-dire un joueur qui peut progresser balle au pied. Après, il y a beaucoup d'inconvénients et je suis aussi d'accord avec ce que vient de dire Alexandre, notamment sur l'évolution de son jeu. Il faut savoir qu'à Benfica, il était assez axial, mais il était assez excentré côté gauche. Ce qu'il a repris notamment au Bayern Munich, il n'était pas piston, hein, il n'était pas à gauche, mais il était très excentré au niveau de son profil au milieu de terrain. Ensuite, il est passé à Sonsui. Là, par contre, il s'est déporté plutôt du côté droit, malgré qu'il avait toujours un peu ce jeu axial. Et c'est en arrivant au LOSC où clairement son volume de jeu a été a été élargi. Et clairement là, c'est vraiment devenu un profil axial. Même si c'est vrai qu'au LOSC, il a pas mal joué du côté droit, notamment sur l'aile, il avait toujours tendance à avoir ce profil-là qui repique dans le centre, qui passe pour l'aile. C'est-à-dire que moi, ce que j'appelle les nouveaux ailiers, c'est-à-dire, vous savez, on a les ailiers comme Lionel Messi, comme Ribéry, comme Robben a pu l'être. Et voilà, donc en soi, il est milieu de terrain, mais lorsqu'il est sur l'aile, il aime bien repiquer dans le centre, etc. Mon avis sur le cas Renato, moi j'ai noté un peu certaines choses sur son jeu, parce que j'ai revu pas mal de choses. Une chose qu'on ne met pas souvent en avant, c'est sa qualité de passe. Il a une réelle qualité de passe, que ce soit courte ou longue. Il a une réelle qualité à aller chercher les ailes. Et ce que j'aime bien aussi, c'est transversal. Lorsqu'il était ailier du côté droit, sa manière d'aller chercher le côté gauche. Ça, je trouvais ça très, très intéressant au Paris Saint-Germain. Et dans un profil où le 3-5-2 est censé désaxer l'équipe adverse, où tu as besoin d'une énorme densité au milieu de terrain, un profil très axial comme Renato Sanchez, qui peut jouer aussi sur le côté droit, ça serait très intéressant. Après, je rejoins les réserves d'Alexandre concernant les blessures. Bon, la vidéo sera longue quand on aura le temps d'en parler. Mais quand même, depuis l'arrivée à Sonsui, c'est quand même 15 blessures. Et en général, c'est pas des blessures dues à des fractures, c'est vraiment des blessures musculaires.
Pardon, Barry. En fait, c'est Galtier l'a répété l'année dernière, je crois, lors d'une interview. En fait, c'est des petites blessures parce qu'en fait, il est tellement contracté, il se met tellement de pression dans son jeu. Et en fait, vraiment, c'est vraiment une boule. C'est vraiment, voilà, il est rempli d'énergie. En fait, il est tellement contracté. En fait, ça fait direct une blessure musculaire, donc ça dure pas souvent. Ça dure une semaine, deux semaines, allez, un mois maximum. C'est pas des longues blessures, mais c'est vrai que c'est vraiment des blessures. Enfin, voilà, à la fois qui se libèrent de cette pression un peu, je pense qu'il a depuis qu'il a ses 18 ans, parce que voilà, ça fait 18 ans où il est considéré comme l'un des plus gros cracks portugais, et voilà, il se met une telle pression qu'en fait ses muscles se tendent, se contractent, et ça fait qu'il enchaîne les blessures.
Bah, c'est un milieu box-to-box, et c'est vrai que le profil de box-to-box, on demande des profils assez explosifs, et c'est vrai qu'au niveau de l'impact physique, même pas l'impact qu'il met sur l'homme, l'impact qu'il met au démarrage de sa course, c'est vrai qu'il met un impact qui doit être très, 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 très énorme pour ses muscles, c'est logique, tu vois. Avoir une telle explosivité, c'est difficile à canaliser. Mais c'est parce que, uniquement ce qu'a dit Galtier, on parlera un peu de ses inconvénients, mais ce qu'a dit Galtier aussi par rapport à ça, c'est qu'il parle aussi de sa fragilité mentale. Et qu'il estime aussi que le joueur est très, très bon, mais il n'a peut-être pas la même stabilité mentale que peut avoir, je ne sais pas moi, par exemple, à Kylian Mbappé ou d'autres, tu vois, pour prendre vraiment des joueurs à gros égo. Mais en termes de football pur, pour revenir au football pur, ben non, c'est une très très bonne affaire. Et une dernière chose, il a une très bonne frappe de balle. Il devrait peut-être plus miser sur cette frappe de balle que je trouve qu'il n'utilise pas assez du côté du LOSC.
Bah, pour évoquer Renato Sanchez, c'est un joueur que personnellement moi j'aime bien. Il a justement ce profil de milieu un peu plus offensif que les autres, comme vous l'avez dit précédemment. J'aime bien notamment le fait que quand il prend le ballon, il se projette vers l'avant directement. Donc moi, en ce qui me concerne, je vais en concurrence avec Vitinha plus qu'avec Verratti. Donc moi je trouve qu'on est gagnant dans le sens où Vitinha, Renato, il va falloir que tu sois bon pour jouer dans tous les cas. Donc je pense que en sachant qu'on ne paye que 15 millions d'euros, l'accord avec Milan c'était 16 millions, tu empêches une transaction entre deux clubs qui ont appartenu à Peter Elliott et qui du coup semblaient déjà toutes faites depuis des mois. Moi je trouve que c'est assez cool, je veux dire on parle d'un joueur qui va toucher moins d'argent qu'un Idrissa Gueye, qu'un Herrera, qu'un Wijnaldum, qu'un Paredes. Donc déjà, au niveau de l'opération comptable, on ne s'est pas plumé. Et ça, je trouve ça super cool. Je trouve que ça change quand même pas mal des dernières années où je pense que pour avoir le même joueur, on aurait dû peut-être payer 25-30 millions pour arriver à l'arracher à l'AC Milan. Là, on ne fait pas une mauvaise affaire. On a un joueur qui est utile sur le terrain. Après, ouais, je suis d'accord avec vous. Il se blesse beaucoup, notamment à Lille, il s'est beaucoup blessé. Mais en soi, le fait qu'il sera en concurrence avec un joueur comme Vitinha, ça reste que mon opinion, tu vois. Ça peut te permettre d'avoir... constamment dans ce milieu à deux, du moins, des solutions. Moi, dans ma tête, je vois un milieu à deux où tu as Verratti et Vitinha titulaires, Renato Paredes remplaçant. Après, tu mets Mancari et Paredes et tu as complété le milieu. Hein. Je pense que tu n'as pas besoin de plus en soi. Et les autres, merci pour les services rendus et au revoir. Quoi.
Je suis d'accord, moi, si... Déjà, bonjour à tous. Moi, je suis d'accord, Renato Sanchez, c'est un joueur... On a souvent tendance à dire que c'est un futur crack, etc. Le problème, c'est que là, il a déjà 25 ans, donc il faut arrêter de le considérer comme un jeune crack. Il a été Golden Boy en 2016, ça fait déjà 6 ans. Ça fait 6 ans qu'on attend que ça devienne un top milieu de terrain. Malheureusement, beaucoup de blessures, comme vous l'avez dit. J'ai regardé du coup la saison du titre de Lille. Et en fait, il a fait que 23 matchs de Ligue 1, donc 60% des matchs. C'est pas si énorme. Mais comme vous l'avez dit, ce qui est bien, c'est que c'est un joueur très à l'aise techniquement. Ça, on adore au milieu de terrain. Il est capable de casser des lignes, balle au pied, mais aussi par la passe. Donc ça, c'est top, c'est un milieu très créateur. Et comme tu l'as dit, Barry, moi j'aime bien le fait qu'il soit polyvalent et qu'il peut jouer à droite aussi. Imaginons, on ne sait pourquoi, t'as un Hakimi qui est suspendu et t'as un Mukiele qui est blessé. Renato Sanchez, au pire des cas, il peut dépanner sur le côté droit. Donc ça, c'est pas mal. Mais moi, j'ai pas mal de réserves quand même sur toutes les blessures. Et je pense quand même qu'un Vitinha part quand même devant dans la hiérarchie au départ. Et c'est à Renato de venir gagner sa place dans l'entrejeu.
Après, tout à l'heure, je parlais de sa fragilité mentale, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Renato, très jeune, il a déjà été dans un environnement où clairement il avait la pression. Parce qu'il a commencé à Benfica B, il est monté au Benfica A, je pense qu'Alex,
en fait, il n'est pas passé 2014. Par la C'est l'un des seuls joueurs d'ailleurs qui n'est pas passé par l'équipe B de Benfica. Il a fait direct U19 A directement, il n'est pas passé par l'équipe B. Voilà, c'est pour ça qu'il se met une pression d'enfer. Mais après, c'est vrai que ce qui est bizarre, c'est qu'il n'était jamais blessé à Benfica, ni en jeune, ni chez les pros. C'est après que je pense qu'il n'a pas su prendre cette pression et la mettre sur ses épaules.
Je ne savais pas qu'on parlait de Gabi ce soir.
Je pense notamment, tu vois, il a commencé très très jeune. Tu vois, sa carrière a commencé quand même en 2015. C'était encore un minot. Il est rentré directement dans l'équipe de Benfica, il s'est très vite fait repérer. Dans la foulée, il joue quand même l'Euro, tu vois. L'Euro 2016, où son pays gagne, il est déclaré Golden Boy. Derrière, il signe au Bayern Munich, qui est quand même l'un des top clubs avec 5 Ligues des Champions, l'un des plus gros clubs historiques qu'on a dans le monde du football. Et c'est là que vraiment, tu commences à te rendre compte, il n'était pas encore prêt, tu vois. Il arrive dans un Bayern Munich où, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il a commencé 2 matchs en tant que titulaire, tu vois. Et donc après, c'était des bouts de match par-ci par-là. Il a un
Mais tu
profil
te rappelles de la
très
concurrence qu'il avait à Munich?
C'est ça. Et au-delà de ça, en plus, il a un profil très à droite. Et du côté de Munich, on le mettait très à gauche, tu vois. Donc on désaxait complètement le style de joueur qu'il était. Et comment dire, moi, je me rappelle de Renato Sanchez à l'Euro 2016. Quand il jouait, il faisait mal. Il était, tu vois, il avait quand même un certain talent et ça se sentait. Tu vois, moi, je regardais la télévision, je le connaissais même pas et pourtant, je me disais, mais ce petit jeune, il a quelque chose dans les jambes. Donc, tu vois, je pense que lui, il a eu de la pression très, très, très tôt. Ensuite, après, il y a eu son prêt à Sansui aussi où, bon, c'est assez mitigé, il n'a pas été mauvais, mais il avait moins de pression aussi. Mais les blessures ont commencé à ce moment-là. Donc, voilà, je pense que lui, son environnement était assez compliqué. Le fait qu'il arrive dans un club qui se veut top club, mais qui n'arrive pas en tant que titulaire. Je pense que ça va quand même l'aider, tu vois, à relâcher la pression, à souffler un peu plus et à se dire, bah là, j'ai moins d'attentes en soi, tu vois. Avant, quand j'arrive au Bayern, j'étais le crack. Et là, j'ai 24 ans, je suis peut-être plus le crack, je suis peut-être un joueur parmi tant d'autres.
Ça, parce qu'au Portugal, en fait, on n'a pas eu un tel engouement depuis, je dirais même Cristiano Ronaldo. C'est-à-dire que c'est vraiment, il est arrivé de nulle part un peu. Il jouait encore, il y a la Youth League et d'un coup, il est monté en A, il a performé direct. Il y a eu un tel engouement sur ce joueur qui n'était quasiment du jamais vu. C'est-à-dire, il y avait des unes des journaux. Parce qu'au il y en a 3 des journaux. Donc, à chaque fois, il faisait la une des journaux où c'était marqué le garçon en or. Enfin, c'était tout le temps, ça parlait de Renato Sanchez. À 17 ans, 18 ans, c'est dur de porter ça sur ses épaules. Et il n'a jamais su, malheureusement, savoir comment faire. Mais après, moi, je reste persuadé que si vraiment il arrive à se retaper physiquement et à éviter d'avoir des blessures, on l'a tous vu. C'était l'un des meilleurs de notre championnat quand il était en forme. Son match contre Chelsea, même contre nous, où vraiment il y a très peu de milieu de terrain qui nous a fait mal comme ça. On est tous d'accord qu'à son niveau, à son réel niveau, je pense qu'il est titulaire au PSG. Maintenant, voilà, il reste ce problème des blessures. Mais je pense vraiment, c'est pas un joueur qui se blessait auparavant beaucoup. C'est un joueur qui se blessait quasiment jamais en jeune à Benfica. Et après, il y a eu ce déclic où il n'avait pas su travailler sur ça. Mais si vraiment le PSG le prenne avec Campos, avec Sacramento, avec Danilo, Nuno Mendes, etc., avec un contexte autour de lui, si je ne sais pas s'il prend quelqu'un pour l'aider mentalement, moi je pense vraiment que ça peut vraiment être une super recrue pour le PSG et ça, j'ai aucun doute là-dessus.
Alors, les gars, on va enchaîner sur une autre question parce qu'on va bientôt perdre Alexandre. Alexandre, tout à l'heure, tu as parlé de pression qu'il avait à Lille et il y a justement OK qui nous demande est-ce que la pression ne serait pas logiquement encore plus haut au PSG qu'à Lille, donc plus de problèmes au niveau de la pression pour Renato Sanchez.
Barry l'a dit tout à l'heure, il arrivait à Lille en tant que limite superstar, mégastar, mec qui arrive du Bayern. Voilà, c'était vraiment quand il y a eu la rumeur ou l'arrivée de Renato Sanchez à Lille, il y a eu vraiment un gros engouement. Et pareil, ça a été une grosse pression pour lui parce que il devait tout de suite prouver que c'était l'un des meilleurs. Voilà, le mec qui arrive du Bayern, tout de suite, malheureusement, inconsciemment, tu dois prouver que t'es l'un des meilleurs de ton championnat. Donc cette pression-là, il se l'est mise tout seul. Et en plus, pareil, là, il va arriver au PSG, il a dit Barry, pas forcément en tant que titulaire. Donc, il va peut-être se mettre moins de pression. Il va se dire, écoute, j'ai une carte à jouer. C'est peut-être ma dernière, parce qu'après, si je loupe la case PSG, ça va être compliqué pour moi de retrouver un top club. Il a loupé un peu au Bayern, c'était trop jeune. Maintenant, je pense qu'il arrive au bon moment. Peut-être qu'il est prêt mentalement pour ce genre de défi. Mais je pense qu'il va arriver avec moins de pression qu'à Lille, parce qu'il a... Voilà, Lille, il avait tout à prouver, il devait montrer que c'était le meilleur. Là, au PSG, il est entouré de grands joueurs, on ne va pas se focaliser sur lui. Donc, je pense, comme l'a dit Barry, que la pression sera moindre sur ses épaules.
Et puis surtout, ce qu'on oublie de dire, c'est que tu vois, au niveau du profil, dans ce qu'on veut mettre en place, c'est un joueur qui va être très intéressant. Parce que voilà, le 3-5-2, ça te rajoute une densité au milieu de terrain. Et donc, forcément, tu as besoin de profils qui va pouvoir prendre la profondeur. Tu as Vitinha qui va le faire balle au pied. Et avoir un deuxième profil comme ça, une nouvelle solution qui peut percuter avec le ballon au pied, je pense que ça pourrait être très intéressant pour le Paris Saint-Germain.
On va remercier Alexandre qui doit nous quitter. Merci beaucoup d'être passé, Alex.
Bonne émission, ciao, ciao.
À plus.
Merci. Merci, patron.
Obrigado.
Déjà, je tiens à vous dire, à 194 personnes qui nous regardent, n'oubliez pas de liker la vidéo, s'il vous plaît, ça nous aide énormément. Et deuxième chose, là, on fait le live jusqu'à 21h. Et après, on enchaîne sur un deuxième live sur la rumeur Bernardo Silva. Donc, restez avec nous. Ce ne sera pas le même lien, mais retournez sur la chaîne et vous allez pouvoir trouver le lien. Et à la fin de ce live, il y aura le lien aussi également à la fin. Alors, j'ai une question aussi par rapport à Renato Sanchez. Je vois que beaucoup d'entre vous et même sur Twitter, les gens ils pensent qu'il est en concurrence avec Verratti et Vitinha. Mais est-ce que entre guillemets, il n'est pas là aussi pour pallier à une éventuelle absence du numéro 10 du PSG. Est-ce que aussi il va pas pouvoir peut-être jouer un peu plus haut sur le terrain? Parce que on a déjà fait une vidéo sur Renato Sanchez, et notamment Basto et Dryas nous disaient que défensivement, il est derrière tous les milieux de terrain, quasiment tous qui sont au monde. Donc je pense pas qu'il soit forcément une bonne chose dans un milieu à deux, mais peut-être qu'il est là entre guillemets pour remplacer la personne qui est juste devant numéro 10. Je vous laisse débattre là-dessus.
Tu poses une bonne question.
Je commence du coup, t'entends ?
Vas-y, commence, on va prendre les caméras.
Non, vas-y, t'entends, vas-y, commence.
Non, j'allais dire, il pose une bonne question parce que, en vrai, comme on le disait en début, hein, Renato Sanchez, c'est pas du tout un profil de milieu défensif, genre 6 que tu vas caler entre les deux défenseurs, qui sera en couverture défensive à la Calvin Phillips, pour citer Drias et Basto qui seront contents de l'entendre. Non, Renato Sanchez, c'est vraiment un profil de milieu que je qualifie moi personnellement de 8,5, c'est-à-dire que 8, mais tu peux aussi le faire jouer 10. Donc ta question, je pense que c'est, est-ce qu'il vient pas aussi pour jouer au rôle de numéro 10 selon les matchs? Après, il y a une autre option hein, qu'on n'a pas encore évoquée, ça peut être selon les matchs, si tu as des absences entre Messi, Neymar et Mbappé, pourquoi tu verrais pas aussi un 3-1-4-2 en cours de match avec 1-6 et 2-8? C'est une question que je me pose aussi, tu vois.
C'est ce que j'allais dire, tu vois. C'est justement ce que j'allais dire, tu vois. Mais si on parle uniquement tactique, si on parle uniquement tactique, d'un point de vue offensif, c'est très intéressant. D'un point de vue défensif, ça va être beaucoup plus compliqué parce que l'une des spécificités de jeu du 3-5-2, c'est le pressing, tu vois. Et pas forcément uniquement le pressing direct, comme je dis souvent sur le porteur du ballon. Il y a aussi le pressing assez lent, c'est-à-dire le pressing dans le placement entre les lignes, le pressing où justement tu vas fatiguer l'adversaire. Et dans ce pressing-là, c'est-à-dire défensivement, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Je pense pas que ce soit la meilleure solution, Renato Sanchez. Par contre, offensivement, il t'apporte une solution. Au Paris Saint-Germain, tu es amené à être une équipe qui forcément va avoir le ballon. Tu vois? Et comme l'a dit Tonton, tu joues avec une pointe basse. Parce que clairement, au vu de ce que j'ai vu au dernier match, en phase offensive, tu es en 4-6-1. En phase défensive, tu es en 3-5-2. En phase offensive, tu es en 4-6-1. Même pas. En phase défensive, tu as une ligne de 5. Tu vois? Tu as vraiment une ligne de 5. Donc, ce que je disais, c'est, imaginons que tu joues avec une pointe basse, tu mets Verratti en pointe basse et tu joues avec 2-8, c'est-à-dire Vitinha et Renato. Là, je pense que Renato pourrait s'épanouir, etc. Maintenant, je suis quand même d'accord avec Tonton, tu vois, il a une certaine explosivité, une certaine pointe de vitesse. Je pense qu'il devrait plutôt travailler sur ses pressings aussi, tu vois, vu son explosivité, sa puissance qu'il met au contact.
Moi, j'ai l'impression que Renato Sanchez, c'est plus une opportunité de marché qu'un vrai besoin qu'on a au milieu de terrain. Typiquement, je pense que le vrai besoin qu'on a, c'est un remplaçant, on le dit souvent, le remplaçant de Thiago Motta, c'est un vrai numéro 6, un meneur d'homme. Renato Sanchez, j'ai plus l'impression que c'est une opportunité de marché, le fait qu'il a fait une bonne saison, deux bonnes saisons, même s'il y a eu beaucoup de blessures, qu'il a envie de partir de Lille. Mais j'ai pas l'impression que c'est un joueur vraiment essentiel dans notre politique de ce que Galtier veut mettre en place. Et j'ai l'impression que c'est un mec qui va plus être là comme couteau suisse, c'est-à-dire que si on a besoin de faire tourner, si Neymar il a besoin de souffler, on va pouvoir le mettre en 10. Si Verratti il a besoin de souffler, on va pouvoir le mettre à la place de Verratti. Mais j'ai pas l'impression que c'est vraiment le milieu de terrain qu'on réclame depuis des années, qui va être le milieu indispensable. J'ai l'impression que c'est dans le futur, il y a plus de chances que ça soit Verratti que Renato. Mais ouais, j'ai l'impression que je suis un peu plus sceptique sur ce transfert-là que vous.
Alors moi, j'allais dire, je vois pas remplacer Verratti Renato dans le profil, mais
non, après, mais je parle en termes de nombre, parce que Renato, en fait, tu le mets en 6 à la place de Verratti, c'est pas son poste. Tu le mets à la place de Vitinha, ouais, il pourrait être en concurrence, ok, mais il se blesse souvent. Tu peux le mettre en 10 à la place de Messi ou de Neymar, mais forcément, s'il jouera jamais là, quand ce sera les gros matchs. Pourtant, Renato Sanchez, on sait qu'il est bon dans les grands matchs. Milan AC, il les a foudroyés. Chelsea les a foudroyés. Le PSG les a foudroyés. Marseille les a foudroyés. On sait qu'il est bon dans les gros matchs, mais je me demande vraiment s'il va jouer les gros matchs, parce que je pense pas qu'on va avoir un milieu à 3 à l'époque, comme à l'époque de Laurent Blanc, et 4-3-3, je pense pas qu'on va le voir de la saison, ça.
Mais je pense qu'on va le voir. Je pense quand même qu'on va le voir au niveau des blessures, etc. On va voir pendant certains moments des attaques à 3 ou même des défenses à 4, ça peut dépendre, mais ça sera très rare. Mais on va quand même le voir, je pense. Par contre, non, je suis pas forcément d'accord, parce que en soi, dans le style de jeu que j'ai vu de Galtier, c'est-à-dire moi j'ai uniquement vu le jeu de Nantes et j'ai vu aussi les matchs de préparation. De ce que j'ai cru comprendre, ton Thiago Motta, c'est Verratti. De ce que j'ai cru comprendre, ta pointe basse, c'est Verratti. C'est-à-dire que c'est pas le même profil de joueur, hein, je suis loin de dire ça, mais je te parle au niveau de la position sur le terrain.
Ouais.
Cette partie du terrain-là, elle est occupée par Verratti, en phase défensive, tu vois. Cette manière de jouer très très bas et comme je l'ai dit, d'être en pointe basse. Donc oui, c'est pas le Thiago Motta que tu cherches, mais est-ce qu'on cherche encore un Thiago Motta? Elle est là, la vraie question. De ce que j'ai compris, on veut jouer en pointe haute, c'est-à-dire qu'on veut jouer avec un numéro 10. J'ai pas l'impression qu'on va jouer avec un Thiago Motta. Tu vois?
Bah, si tu avais un Thiago Motta, Verratti ne serait pas là en 6. Verratti, il pourrait jouer un peu plus haut. Mais là, forcément, on ne l'a pas. Donc, on met Verratti en 6. Pourtant, on sait que Verratti, dans les 30 derniers mètres, il est exceptionnel dans la dernière passe. C'est là où on l'aime le plus.
Oui.
Mais bon, là, on n'a pas le choix. Donc. Mais j'ai l'impression que Renato, en fait, j'arrive pas à l'imaginer titulaire dans ce PSG-là. Je le vois pas.
Mais à quel moment on a dit qu'il devait être forcément titulaire et jouer 60 matchs par an, Renato?
Les gars, je vais reprendre la parole parce que ce que vous dites, c'est intéressant et ça rebondit sur pas mal de commentaires que j'ai vus. Il y a notamment Anthony qui nous dit qu'Campos et Galtier le connaissent très bien, donc ils sont conscients de ses forces et de ses faiblesses. Et on a aussi Vince qui nous dit, je pense que Galtier sait comment il va l'utiliser, rotation, remplacement, etc. On verra bien. Donc, justement, je voulais vous demander la relation entre Galtier et Renato Sanchez. Est-ce qu'elle ne va pas être utile dans son adaptation et au PSG, quoi?
Est-ce que je peux juste répondre juste en une fraction de seconde par rapport à ce qui était dit avant? En fait, juste une spécificité de jeu du 3-5-2, c'est que tes milieux, ils sont très offensifs. Ils prennent énormément la profondeur. Ils apportent une solution offensive. Et Verratti, on pourra dire ce qu'on veut. Hein. C'est un très, très bon milieu de terrain. Je suis loin de dire ça. Mais offensivement, il va être très très bon dans les passes, mais dans les courses, c'est pas celui qui va te faire des courses tranchantes, tu vois. C'est pas ce style de joueur-là. Il l'a jamais fait, il le fera jamais. C'est pas son style de joueur. Il a pas envie de se projeter dans la surface. Pochettino a essayé de le faire, il l'a fait pendant 2-3 mois et ne l'a plus fait derrière. Je pense que dans le 3-5-2, non. Dans le 3-5-2, quand tu vas jouer en point de basse, je pense que Verratti sera plus à même d'être en bas pour pouvoir dynamiter le jeu dans un poste de Regista, pour pouvoir envoyer certaines choses. Et avec Neymar qui redescend, et dans ce système-là, si tu joues avec une pointe basse, tu auras besoin de joueurs comme Vitinha qui, eux, vont prendre la profondeur, et de Renato aussi, tu vois. C'est mon avis. Après, c'est vrai que oui, numériquement, non, ce n'est pas le remplaçant de Verratti. Pour moi, Renato, c'est plus le remplaçant de Vitinha, tu vois.
Je suis d'accord.
Maintenant, enchaîne, répondez à la question, s'il vous plaît.
La question, tu sais, comme je suis parti, j'ai oublié
la question. Vas-y, réponds à la question, s'il te plaît.
Moi, je suis
désolé.
Vas-y, moi, je suis totalement d'accord. Galtier, Campos, forcément, ça va l'aider à s'acclimater. Après, comme on le dit, on dit ouais, au Bayern, il était trop jeune, c'est pour ça qu'il n'a pas réussi. En fait, on n'en sait rien. C'est que des suppositions. S'il arrive à Paris et qu'il échoue, on dira plus ouais, au Bayern, il était trop jeune. On dira juste qu'il n'a pas les épaules pour les gros clubs. Donc là, c'est à lui de nous prouver qu'au Bayern, il était trop jeune et que maintenant, il a le potentiel. Et je pense que Galtier, oui, il sait comment l'utiliser. Et ils ont bien dû discuter. Il a peut-être dit ouais, des fois toujours à droite, des fois toujours à 10, des fois toujours à 8. Mais je pense que ça va lui faire du bien d'avoir un coach qui lui fait confiance et dont il n'a pas besoin de prouver quel joueur il est puisqu'il le connaît déjà.
Mais Galtier et Campos même. Parce que c'est Campos déjà qui le recrute du Bayern à Lille. Donc
ouais.
Je pense que tu as un intérêt des fois où même tu te sens plus rassuré quand c'est des gens avec qui tu as déjà travaillé qui viennent te chercher aussi. Donc non, je dis pas que c'est parce que Galtier et Campos viennent le chercher que ça y est, Renato il va jouer 50 matchs la saison prochaine, il va mettre la concurrence sur le banc et le monde à ses pieds, tu vois. Mais le fait qu'ils connaissent déjà qu'il y a Vitinha, qu'il y a Nuno Mendes, qu'il y a Danilo, excuse-moi, il y a quand même pas mal de ses copains en sélection en fait à Renato, il y a pas mal de gens qu'il connaît déjà, il y a des lusophones du coup avec les mecs que j'ai cités, Neymar qui est brésilien, il parle portugais, enfin bon différemment, mais je pense qu'il y a moyen de se comprendre comme avec Marquinhos, je pense que ouais voilà, et ça fait plusieurs années qu'il est en Ligue 1, donc je sais pas après si Renato parle français, je vais pas rentrer dans ce débat, tu vois.
Il parle très bien français.
Ouais, voilà, je rentre pas dans ce débat, tu vois, mais je veux dire, il y a déjà des motifs qui peuvent lui permettre de s'intégrer correctement dans le club, tu vois. Donc, je te dis pas non plus, moi, je le vois pas comme un titulaire. Moi, je te dis pas, Renato, c'est le titulaire au poste à côté de Verratti, il va jouer 60 matchs et il va nous faire une saison masterclass. Mais je te dis, Renato, correctement utilisé en cours de match, quand t'as un Vitinha qui est fatigué, que t'as besoin justement de garder un joueur qui va rester haut sur le terrain, qui va apporter de la percussion. Bah, tu vois, hier, quand on faisait le débrief de Monaco, on parlait des joueurs qui sont rentrés, qui ont amené de la percussion, quoi, amené quelque chose. Ouais. Regarde Kamavinga cette année, quand il rentre avec le Real, qui ramène quelque chose. Bah, je pense que tu peux avoir ce truc avec Renato. Tu vois, je te dis pas non plus, ça y est, on fait le parcours du Real et Renato sera notre Kamavinga. Mais je fais des similitudes pour que ça parle aux gens, tu vois. Mais je pense que tu peux utiliser correctement Renato en le faisant rentrer en cours de match selon son état de forme. Parce que je vais pas te mentir, je le vois pas faire 60 matchs pleins, tu vois.
Ah bah, ça lui est jamais arrivé.
Moi, je suis David Tonton. Moi, je suis David Tonton. Hein. Je pense que déjà avoir une doublette Campos et Galtier qui l'ont déjà eu, en sachant que Galtier, il a eu quoi, 2-3 ans, si je dis pas de bêtises. 2 ans, non? Ouais. J'ai pas de bêtises.
Deux ans, il me semble. Je suis pas sûr. Deux
ouais,
ans, je
deux
te
ans.
Deux,
deux ans, deux ans et demi. Bref, en tout cas, il a eu quand même pas mal de temps. Il connaît ses spécificités de jeu. Et puis, comme j'ai dit, c'est un profil que tu n'as pas au Paris Saint-Germain. Tu vois ce profil-là, mais il est titulaire. C'est Vitinha. C'est, enfin, dans les faits, hein, c'est pas le même profil, mais c'est à peu près le même principe. Tu vois, c'est juste que, comment dire, Renato va être davantage box-to-box et davantage explosif. Mais c'est pratiquement le même principe. Surtout la polyvalence. En cours de match, tu veux passer en 3-4-3 parce que tu veux avoir une densité sur les ailes. C'est très intéressant. Tu as Sarabia, tu as Renato, tu as tes pistons. Donc oui, il apporte quelque chose que tu n'as pas forcément au Paris Saint-Germain. Tu vois, Danilo, tu vois, par exemple, regardez, au dernier match contre Nantes, lorsque Danilo rentre, Danilo va prendre la pression, va prendre la profondeur. Mais Danilo, il n'est pas bon dans la profondeur. Tu vois, à la place, tu fais rentrer un Renato, ça change quelque chose. Tu vois, c'est
Barry, est-ce que tu as cette image en tête quand Danilo, il fait une passe et au lieu de faire comme un Vitinha, c'est de se démarquer pour recevoir le ballon à un autre endroit du jeu, il fait quoi? Il se dit, attends, il y a un joueur libre là, faut que j'aille le prendre au marquage. Danilo, il fait sa passe et il va au marquage. Ça mourir de rire. Moi, Danilo, dans ma tête aujourd'hui, c'est le remplaçant de Marquinhos dans la défense à 3. Moi, je le vois plus au milieu dans cette équipe, tu vois.
C'est ça. Pour moi, il y a deux choses qu'il faut dissocier. Tu as soit, tu dois aller courir après le score. Donc là, tu vas faire rentrer un Renato Sanchez pour avoir une stabilité offensive. Ou sinon, tu dois garder un score. Bah là, tu feras rentrer un Danilo qui, lui, va te rajouter quelque chose de défensif. C'est-à-dire qu'il faut avoir plusieurs profils au Paris Saint-Germain. Et ces dernières années, le problème, c'est qu'on a eu énormément de profils statiques. On avait très peu de profils mobiles. Là, on a Vitinha. Donc, il faudrait mieux avoir un deuxième comme Renato Sanchez. Je sais que le Paris Saint-Germain, de ce qu'on a compris, a voulu aller partir sur Thuram. Renato Sanchez, c'est pas une mauvaise idée.
Mais en vrai de vrai, si on joue dans un milieu à deux, t'as besoin de six milieux, t'as deux titulaires, deux remplaçants et deux jeunes. Pourquoi faire plus?
Ouais, et surtout, année de Coupe du Monde, on a besoin de milieux. Ouais.
Bah oui.
Vas-y. Alors, les gars, il nous reste 3 minutes avant d'enchaîner sur le deuxième live. Alors, surtout, restez avec nous. Pour les nouveaux arrivants, on va basculer sur un autre live qui va parler de Bernardo Silva. À la fin de ce live, vous aurez le lien pour basculer. Donc, il n'y a pas de souci. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, s'il vous plaît. Ça nous aide énormément. Alors, pour clôturer ce live, on va revenir un peu sur les questions qui vous ont été posées au cours du live. Je vous donne chacun une question, comme ça après on reste pas trop longtemps sur la question. Alors Barry, pas la question principale du live, mais admettons que l'on recrute encore un milieu en plus de Renato, tu prendrais qui et pourquoi?
Bah moi je prendrais un profil à la De Jong, tout simplement, parce que voilà, tu as déjà une pointe basse qui est Danilo, qui est très défensif, et tu auras besoin d'une pointe basse qui manie le ballon. Donc je pense que De Jong est un profil donc que tu n'as pas au Paris Saint-Germain. Tu l'as, enfin de ce que j'ai compris, hein, Galtier et Sacramento vont faire jouer Verratti à ce poste-là, parce qu'on a compris sur le terrain lors de certaines phases ils vont transiter à ce niveau-là. Mais avoir un De Jong, ça serait très intéressant. Ou alors en dernier recours, un profil qui sera dans le pressing et je pense même que c'est un profil dont tu as besoin, un profil à la N'Golo Kanté. Peut-être pas N'Golo Kanté, mais un profil dans ce style-là.
Alors, tonton, il y a une question de Angry Bird qui nous dit « Franchement, j'aurais préféré un Seco Fofana à Renato Sanchez. Vous pensez qu'on peut toujours le recruter ou pas ?»
Je pense que c'est faisable. Après, moi, comme j'ai dit, hein, dans ma tête, c'est fini. Quoi. Moi, je dis, hein, dans ma tête, je vois Verratti, Vitinha titulaire, Renato remplaçant de Vitinha et Paredes remplaçant de Verratti, c'est les mêmes profils. Zaïre Emery et Eman Kari, t'es bon. Le reste, tu fais fuiter. Après, est-ce qu'un Fofana c'est faisable? Ça dépend combien de demandes lance en fait. Sinon, c'est de pas nous arnaquer peut-être. Ça dépendra de l'offre, tout simplement.
Ok. Et dernière question. Elle est un peu compliquée celle-là, Berdy. Si tu connais pas, on passera à une autre. Parce que il y a Wissubard qui nous dit bonsoir la team. Rien à voir avec le thème, mais vous pensez quoi de Benjamin Sesko?
Tu sais de quoi Salzbourg.
Je te passe une autre question.
Ouais. Non, franchement, moi, j'en ai parlé sur Twitter en plus. Sesko, moi, je serais très chaud. C'est un joueur, quand on le voit, on a l'impression que ça va être un peu le cliché du mec pas technique, etc. Et en fait, vu qu'il est très grand, très élancé, et un peu la manière d'Ekitike pour comparer, très bon techniquement. Franchement, s'il vient à Paris, pourquoi pas. Mais je pense que d'ici un an, qu'il confirme encore avant de venir, parce que Salzbourg, on sait, souvent, ils aiment bien faire Salzbourg après Leipzig. Et après, une fois que tu as confirmé Leipzig, tu pars dans un plus gros club. Moi, je pense qu'il y a encore une étape intermédiaire entre les deux. Après, s'il vient et qu'il réussit, je serai le premier à acheter son maillot. Donc, je ne vais pas lui cracher dessus.
Merci à tous de nous avoir suivis. Alors, n'oubliez pas, on enchaîne tout de suite sur notre live sur Bernardo Silva et peut-être un peu Paredes, parce que je vois qu'il y a pas mal de sujets sur Paredes. Donc, restez sur cette page. Quand je vais terminer le live,
vous aurez
le
lien.
pour aller sur l'autre play.
Ouais, moi j'y vais pour le match de Montpellier, je suis au parc. Ouais.
Allez, moi je sais pas trop, Erlis Fiscal oblige.
Allez, à tout de suite les gars, restez juste ici, vous aurez le lien pour le live qui suit. À tout de suite.